Chapitre 15. L'étonnante entrevue l'ayant empêché de dormir, Vincent a accepté d'accompagner Conrad pour se changer les idées. Ils viennent d'aller visiter le chantier d'un lotissement rue Lepelletier. L'Allemand envisage d'y investir dans un appartement. Le quartier lui plaît. Outre le gigantesque magasin du printemps, qui se trouve déjà tout près, on y annonce la multiplication des commerces et la plus grande concentration de boutiques, offrant un choix inégalé dans toute la capitale. Il fait un temps magnifique. Les femmes sortent sans châle, s'exposant aux ardents rayons du soleil, tout en veillant à préserver la pâleur de leur teint sous des ombrelles et des chapeaux à larges bords. Les badauds s'attardent devant les vitrines remplies de nouveautés, sans cesse sollicité par les marchands d'anneaux de sûreté qui leur conseillent d'accrocher leurs biens pour ne pas se faire délester par les chapardeurs. Le long de ces grandes artères, tout est fait pour tenter ceux qui en ont les moyens et profiter de leur crédulité d'une façon ou d'une autre. C'est déjà le deuxième homme que les deux compagnons remarquent ainsi affublé d'étranges lunettes qui protègent leurs yeux des excès de la lumière grâce à des verres teintés de couleur sombre. Cette extravagance, sans doute venue des Amériques, pourrait bien devenir une mode. L'époque est à l'excentricité et les nombreux visiteurs accourus du monde entier pour l'exposition, qui ouvre enfin le lendemain, apportent avec eux leur lot d'inventions saugrenues et d'usages inédits. À l'angle d'un carrefour, une jeune chanteuse des rues interprète l'indémodable « Temps des cerises » d'une voix haut perchée. Plus loin, un marchand de journaux hurle sa une, annonçant que les anarchistes menacent l'inauguration officielle de l'exposition et projettent de s'en prendre au président Carnot. Ces funestes annonces n'entament en rien la douceur de vivre ambiante. À force de ne se nourrir que de sensationnel, la presse n'est plus autant prise au sérieux qu'avant. Par ce bel après-midi de printemps, Conrad ne déborde pas d'enthousiasme à l'idée de retourner travailler dans leur atelier souterrain. Une idée lui vient. « Puisque nous sommes dans ce quartier, laisse-moi te montrer un endroit unique. Tu sauras comment j'arrive à gagner quelques sous. » Sans attendre la réponse de son comparse, Conrad s'élance et traverse la chaussée. Vincent n'a pas d'autre choix que de le suivre. Les deux hommes se faufilent entre les différents moyens de transport. Il en arrive de partout. Montés en terrasse, des gros omnibus tirés par trois chevaux, les hommes tiennent leurs chapeaux pendant que les dames restent à l'abri dans la cabine du dessous. Les charrettes et les tombereaux tractés par des carnes fatiguées, qui se traînent le long du trottoir, se font apostropher par les fiacres aux attelages piaffants et bien plus rapides. Le balai à double sens est de plus en plus dense. Paris ne tardera pas à être paralysé par sa circulation et ses travaux incessants. Conrad remonte la rue de Châteaudun pour s'engager dans une voie transversale. En quelques enjambées, il change d'univers. Ici, plus de calèches, plus de vitrines ni de boutiques aguichantes. Pas de façades d'immeubles uniformément alignées. Les femmes en toilette et leurs beaux messieurs ne se perdent pas dans ces parages. Ils restent dans la lumière. Dans cette étroite rue où le soleil ne pénètre pas, les immeubles n'ont pas été refaits par des promoteurs. Les donneurs de coups de main proposent leurs services. Ces voies secondaires abritent maintes vies modestes et uniquement des commerces d'utilité. Les constructions dans ces parages ne sont qu'un assemblage de maisons qui se sont agglutinées les unes aux autres au fil du temps, conférant à l'ensemble un aspect chaotique bien éloigné des lotissements ordonnés que l'on érige sur les nouvelles voies. D'un pas volontaire, Conrad progresse jusqu'à une échoppe. Située entre un garnisseur de matelas et un réparateur de souliers qui travaille dans la rue, l'établissement étonne à la fois par son apparence vétuste et son activité. Sur la plaque d'enseigne suspendue à la potence est inscrit Quasimodo, juste au-dessus d'une tête horrible. La piètre qualité de la peinture s'ajoute à la probable laideur du modèle. Conrad s'arrête devant l'entrée et se tourne vers son compagnon. « Chaque fois que j'en ai le temps, je tente », lui explique-t-il. et ça ne loupe jamais. Tu as de la chance, il n'y a pas trop de monde à cette heure-ci. Parce qu'en fin de journée, la queue s'étire souvent jusque dehors. Sur la porte, l'affiche placardée proclame « Rencontrez le monstre le plus laid de Paris, et si vous résistez, gagnez jusqu'à 20 sous. » Un autre panneau, plus petit, précise que l'endroit est interdit aux enfants, aux femmes et aux religieux. Entraînant Vincent à sa suite, Conrad entre sans hésiter. Un couloir sombre mène à un unique guichet. Lorsqu'ils arrivent devant, un homme portant moustache et casquette explique mécaniquement. C'est 20 sous la confrontation. Si vous ne montrez aucune peur, alors vous repartez avec votre mise plus une prime de 20 sous supplémentaire. Par contre, si vous avez la moindre réaction d'épouvante, si vous criez, si vous tombez du tabouret ou si vous fuyez, vous ne gagnez rien. Le patron vous observe et c'est lui qui décide ce que vaut votre bravoure. En cas de contestation, c'est le monstre lui-même qui vous réglera votre compte, c'est bien clair ? Conrad hoche la tête et pose deux pièces sur le comptoir. Je paye pour mon ami. L'homme les ramasse prestement. Très bien, mais vous passerez chacun votre tour, attendez. Deux personnes patientent déjà. Vincent se demande ce qu'il fait là. Un hurlement résonne soudain et un homme jaillit de la cabine tout au bout du couloir. Il s'enfuit vers la sortie sans demander son reste. Déjà, le suivant prend sa place. Vincent s'amuse. Le pauvre bougre semble avoir vu le diable. « Si ce n'était que le diable, » réplique Conrad, impatient de voir comment son complice va se comporter face à ce que lui arrive à surmonter. À voix basse, il précise. « Derrière le rideau se trouve un petit tabouret sur lequel tu t'assois. Quand tu es installé, le tissu face à toi s'écarte et tu découvres un monstre informe qui te fixe de son regard bestial. Il n'est qu'à une coudée de toi. Il est si proche qu'une fois j'ai même senti la tiédeur de son haleine. Le truc, c'est que le tabouret est minuscule et fixé au sol. Si tu as le moindre mouvement de recul, tu tombes et tu as perdu. Les premières fois, je me suis fait avoir, mais je sentais que je pouvais tenir. Alors je suis revenu. C'est ça le jeu ? Ne pas se laisser effrayer par un monstre de foire ? Rigole, mais ce n'est pas si facile. Moi, pour réussir, je me concentre et je me bloque. Je me dis que mes pieds sont vissés au plancher et je garde les mains plaquées sur mes cuisses. Je retiens mon souffle. Du coup, quand il apparaît, je suis comme une statue de pierre, juste assez longtemps pour que le patron croie que je n'ai pas peur. La personne, juste avant eux, vient de s'enfuir à son tour en criant. Plus qu'un, et ce sera à Conrad. L'affaire est vite réglée, et le candidat ressort, livide. Si lui ne beugle pas, il s'en va quand même en titubant, comme s'il avait été assommé. Conrad disparaît derrière le rideau, laissant Vincent seul. On perçoit des mouvements, un glissement de textile, et un grognement. Après quelques interminables secondes, une voix étouffée déclare « Félicitations, vous avez résisté au monstre. Agile, donne 40 sous au grand barbu. » Conrad ressort. Son attitude fière ne parvient pas à masquer son regard affolé. Il ramasse ses pièces et pousse son camarade dans la cabine. « Sois fort. » Vincent passe derrière l'épais rideau. L'espace est obscur, exigu, comme un cabinet secret habillé de tentures. Ses yeux ont du mal à s'accommoder. Il prend place sur le tabouret et regarde devant lui en posant ses mains bien à plat sur ses cuisses comme le lui a conseillé Conrad. Il est prêt, sans trop savoir à quoi. Soudain, devant lui, le tissu s'écarte, révélant un torse couvert d'une toile grossière, surmonté d'un visage inhumain. La lumière rasante accentue les bosses qui déforment le front jusqu'à étirer les traits d'une face épouvantable. Les paupières ressemblent à des vagues de chair venues s'échouer sur l'excroissance immonde qui doit être le nez. La bouche est tordue, les lèvres difformes. Un râle épouvantable s'en échappe. Vincent ne réagit pas. Il reste totalement impassible. L'immobilité de son corps contraste cependant avec la violente tempête qui le secoue intérieurement. Car à la seconde même où il a vu la créature, un sentiment extrême l'a submergé. Ce n'est pas le faciès contrefait qu'il a d'abord perçu, mais les yeux, emplis d'une détresse infinie. Un appel au secours hurlé silencieusement. Au point qu'il en oublie le reste, il est incapable de s'en détacher. Les idées s'entrechoquent dans son esprit. Comment peut-il rester assis sans même tressaillir devant ce qui ferait fuir n'importe qui? Est-il à ce point devenu incapable d'éprouver le moindre sentiment? À moins que cet épouvantable visage n'ouvre en lui un gouffre, un abîme au fond duquel il a malgré tout réussi à percevoir quelque chose d'absolument humain. Vincent est tout à coup terrassé par une émotion inconnue. Pour la première fois, dans ce regard perdu, il a l'impression de contempler ce qu'il ressent. Une fenêtre perturbante ouverte sur lui-même. Il vient de mettre une image sur la solitude qui l'envahit parfois. Vincent pourrait rester ainsi des heures à contempler ce qui le remue si fort, mais déjà la voix s'élève.
« Félicitations, vous avez résisté au monstre !»« Achille, donne 40 sous au beau brun qui a perdu sa casquette. Au suivant !»